Alors déjà, je commence par vous dire bonjour. Vous dormez ? Ah ! Alors, après avoir dit bonjour, je vais vous demander un petit exercice. On va se lever. Voilà. Et on va faire quelques mouvements. Parce que, avec la chaleur, etc., on peut vite sombrer dans la léthargie. Donc, voilà. Alors, ce que je vous propose comme mouvement, c'est tout simple. C'est se détendre, vous respirez. Et puis, voilà, vous tendez bien vos bras. Et puis, en respirant, on fait le soleil. Hein. Allez, faites-le deux ou trois fois. Voilà, bien. Oh, je vois qu'il y en a qui sont plus prompts à la gymnastique que d'autres. Bon, eh bien, ça suffit, c'est bien. Voilà, vous avez été un petit peu régénéré là. Alors, troisième information, troisième chose, vous avez reçu normalement à l'entrée un petit dépliant intitulé « La réforme ». Ce dépliant n'a qu'un objectif pédagogique, c'est-à-dire, si jamais il y a des informations qui vous échappent pendant que je vais parler, ce qui est tout à fait probable, vous avez un document que vous pouvez emmener à la maison et vous pouvez relire. La définition, par exemple, je n'en parlerai pas. Donc, vous l'avez, vous la lisez, vous pouvez la relire, vous pouvez la confronter avec d'autres définitions. Ça, c'est votre travail. Au sujet du papillon, j'en parlerai. Et puis, vous avez des grandes dates qui ont été des grandes dates de la réforme, en tout cas de l'histoire de l'Église avec cette notion de réforme. Donc, voilà, vous avez tout avec une frise qui vous indique les périodes. Les fondements, donc c'est-à-dire les principes sur lesquels les réformateurs ont fondé leur action et leur foi. Et puis, derrière, vous avez ce que la réforme a produit. Et là, j'en parlerai aussi, je donnerai quelques éléments, mais je ne parlerai pas de toutes les personnes qui sont inscrites ici. Je parlerai de d'autres, peut-être. Donc, à vous de compléter. Et aussi, je voudrais dire à mon ami André que... oui, tu aurais pu tout à fait prendre ma place. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que, en fait, tous les pasteurs et tous les anciens d'église et tous les chefs de famille et toutes les sœurs sont toutes capables d'aborder ce sujet de la réforme parce que ce n'est pas du tout compliqué. Ce n'est que de l'histoire. On a tous été à l'école. On a tous fait des leçons. On a appris la géographie, l'histoire, etc. Donc, ce n'est pas compliqué. Alors, je vais vous proposer déjà de regarder sur ce petit document le papillon. Vous avez trois étapes qui sont mentionnées. Et après ce papillon, on priera. Mais je voudrais parler du papillon avant. Vous savez tout ce que c'est qu'un papillon ? Est-ce que quelqu'un ne connaît pas ? On ne sait jamais. Non, c'est bon. Ouf. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'un papillon et on admire le papillon. Les papillons sont magnifiques. Il y en a des plus beaux les uns que les autres. J'ai retenu le papillon monarque. Pourquoi monarque ? Parce que comme nous sommes tous comme des papillons... Et nous sommes tous des rois, ou des fils de rois, ou des filles de rois, en Christ. Apocalypse, chapitre 1er, verset 5, nous sommes appelés à être des prêtres et des rois. Alors le papillon. D'abord, vous avez des chenilles. Qui prête attention aux chenilles ? Une chenille, c'est fragile, malhabile, ça ne se voit pas trop... Parfois, elles se confondent avec la végétation. On peut l'écraser facilement. Elle n'a pas une grosse protection, la chenille. C'est un être faible. Elle n'est pas forcément jolie non plus. Parfois, quelques apparats. Et puis, des fois, rien du tout. La chenille est absolument moche. Alors, voilà un petit peu à quoi ressemble la vie de l'Église sans la présence du Saint-Esprit. Et donc, ma vie aussi ressemble à une chenille. Tant que le Saint-Esprit n'a pas pénétré tout mon être. L'étape 2, c'est l'étape de la chrysalide. En un rien de temps, la chenille prend position sous la forme d'une chrysalide. C'est-à-dire, elle se fabrique une enveloppe dans laquelle elle s'enferme. Et vous voyez une espèce de bout de tissu, là, qui pend par-ci, par-là, dans la nature. Ce n'est pas folichon non plus, hein, ce n'est pas extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et il y a eu un temps, pendant l'Église, l'histoire de l'Église, où Dieu a fait un travail à l'intérieur. On dit que c'est le temps des précurseurs. Et puis, à l'intérieur des cœurs, vous voyez, ce sont des moines, pour la plupart, ou des intellectuels qui étaient là dans le cadre de l'Église catholique romaine, et qui cherchaient Dieu. Et c'était dans le secret. Il y a un travail qui se fait, et à un moment donné, ça prend du temps, en rapport avec le changement entre chenille et chrysalide, entre la chrysalide et le papillon, pour celui-ci en tout cas, à peu près 3 semaines. Donc c'est très long dans la vie d'un papillon. Et il y a une transformation qui se fait à l'intérieur de la chrysalide. Et à un moment donné, la chrysalide disparaît et le papillon apparaît et s'envole vers la liberté. Un être libre, une église libre. Voilà, c'est ce schéma-là que je vous propose, donc n'importe qui, même les enfants, peuvent comprendre, pour comprendre ce qui s'est passé avec la réforme. On est passé de l'état de chenille à l'état de papillon. Après, il faut savoir que la réforme peut se répéter à travers l'histoire, dans différents endroits du monde. Nous voyons souvent la réforme comme étant une affaire européenne, puisque ça a commencé, comme l'a dit André, avec Luther, en Allemagne. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, il y a aussi des réformes qui ont été vécues. Alors on va prier, si vous voulez bien, et je vais vous demander de vous lever encore. Vous voyez, je suis embêtant parce que j'ai eu beaucoup de classes d'élèves et les élèves ont une fâcheuse tendance, c'est d'être en difficulté, soit avec leur estomac, soit avec la chaleur, soit avec l'environnement, soit ils s'ennuient, tout simplement, ça ne les intéresse pas. Et voilà. Alors, on se lève et puis on va prier ensemble. Seigneur, nous venons à toi. Nous avons entendu parler de ce papillon. C'est merveilleux ce que tu fais, parce que tu l'as fait pour beaucoup d'entre nous. Tu as changé cette pauvre chenille en un papillon magnifique et libre. Et c'est vrai, quand nous nous regardons à travers toi, à travers ton ciel, nous sommes magnifiques. Nous sommes des monarques, nous sommes des rois et des fils et des filles de rois. Nous sommes de ton royaume. Bien souvent, nous sommes tristes, Seigneur, comme pouvait l'être Luther, parce qu'il était en bataille avec lui-même, avec son péché, avec ce qu'il voyait autour et qui le blessait, qui l'attristait, qui le révoltait. Et nous pouvons être comme lui. Eh, Seigneur, que ta parole nous parle ce matin, à travers ce sujet. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors, le premier point, c'est la raison de la réforme. Alors je prends le texte de Jérémie. Jérémie au chapitre 26, verset 13. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce que Jérémie a à voir avec une réforme ? Eh bien parce que tout ce qui se vit dans tous les temps de notre humanité, eh bien c'est tout simplement quelque chose qui s'est toujours, toujours, toujours vécu. Car Dieu agit au-delà de toute notion de temps. Jérémie, donc, annonce un message incroyable au milieu de son peuple. Jérémie 26, verset 13. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Effectivement, Jérémie annonce un jugement de Dieu. Mais Dieu dit à Jérémie, tu vas annoncer mon jugement, mais tu vas aussi annoncer la restauration. Et quand il y a menace du jugement de Dieu, c'est toujours accompagné d'une promesse de restauration. Car Dieu n'est pas un Dieu dur de cœur. Nous savons qu'il est rempli de compassion, donc il est toujours prêt à revenir, lui, vers son troupeau, vers son peuple. Alors Jérémie dit, en 609, avant Jésus-Christ, ça fait longtemps, il dit, voilà, réformez vos voies maintenant, réformez vos œuvres. Qu'est-ce que sont les voies, qu'est-ce que sont les œuvres? Les voies et les œuvres, c'est la manière dont on se positionne, c'est-à-dire comment je vis devant Dieu. Comment je vis devant Dieu, c'est-à-dire quand je suis au travail, quand je suis au sein de ma famille, quand je suis chez moi, dans la salle de bain, au salon, en train de regarder un match de foot, ou peu importe, comment je me positionne devant mon Dieu. Est-ce que je choisis ce que Dieu a choisi? Est-ce que mes voies sont comme ses voies? Est-ce que mes œuvres sont comme il les voudrait, ces œuvres, ces bonnes œuvres préparées par avance pour nous, dont Paul parle? Est-ce que nous sommes conscients qu'il est possible que nous ne suivions plus ses voies et que nous ne fassions plus ses œuvres? Une sœur a prié tout à l'heure en disant qu'elle voulait s'examiner. C'est pour cela que la parole nous appelle à nous examiner. Pas seulement au moment de la Sainte Cène, mais toute notre vie, nous sommes confrontés à ce positionnement. Prenez un entraîneur d'une équipe sportive. Où est-ce qu'il se tient, cet entraîneur? Il se tient sur le banc, comme on dit, auprès de son équipe. Il doit trouver tous les moyens pour faire gagner son équipe. Et derrière lui, il y a le stade entier, les spectateurs, les supporters. Et son positionnement, c'est faire gagner l'équipe. Tout faire pour cela. Il ne peut pas prendre son portable et puis correspondre avec sa chérie pendant tout le temps du match et se décharger de la responsabilité d'entraîneur. À la fin, si l'équipe gagne, il a peut-être une chance de refaire encore un deuxième match. Mais si l'équipe perd, on dit « Mais hey, qu'est-ce que tu faisais là ?» Et puis, vous savez, maintenant, la télévision scrute tous les mouvements. Donc, il dit « Ah ben, tu regardais sur ton portable, qu'est-ce que tu faisais sur ton portable ?»« Ah ben, je correspondais à ma femme, j'ai bien le droit quand même. » Non, non. Le monde entier regarde ta position par rapport à ton équipe et par rapport aux exigences de ton club et aux désirs des supporters. Alors voilà que le royaume de Juda n'était plus positionné par rapport à Dieu correctement. Idolâtrie, injustice, corruption, mœurs dépravées. Bon, je n'ai cité que quatre. Beaucoup d'autres choses. Si le peuple ne revient pas à Dieu, alors le jugement arrivera par les Assyriens. C'est ce que dit Jérémie. Et la prophétie va se réaliser parce que le peuple d'Israël qui pensait vivre bien, le peuple de Juda, pardon, pensait vivre bien, n'a pas écouté. 597, 587, 581. En peu de temps, trois déportations pour que le peuple entier soit retenu en esclavage. Et c'est comme ça que nous pouvons tomber en esclavage. Mais Jérémie annonce la restauration. Ce pauvre Juda ressemble à une misérable chenille, lente, malhabile, fragile. Juda est en pleine crise identitaire. Et l'Église, à différentes périodes de l'histoire, était en pleine crise identitaire. Elle ne savait plus ce qu'elle était. Lors du premier baptême de l'Esprit, à la première Pentecôte, l'Église, on va dire, commence là. Elle naît là, elle se forme là. Alors on pouvait imaginer que le Saint-Esprit descendant sur les enfants de Dieu, on pouvait imaginer un peuple parfait. Vous êtes d'accord, l'Église est parfaite? Non? Oh, je sens un malaise là. Eh bien oui, on pouvait imaginer que si c'était l'Esprit de Dieu qui prenait les commandes, l'Esprit de Dieu étant parfait, Dieu est parfait, eh bien, voilà, ça allait tout bien se passer. Mais non, effectivement, non. Non, parce que dès le début, on voit des hérésies qui apparaissent, des disputes aussi, hein. On peut penser aux hellénistes qui faisaient la tête parce que leur veuve ne recevait pas le repas comme les autres. Et alors, il y a eu discussion, il y avait, bon, voilà, une petite, on va dire, une chamaillerie. Une dispute. Et ça, c'était déjà difficile à vivre. Mais au fur et à mesure, des hérésies sont apparues, des sectes, des gens qui, voilà, qui ont troublé la foi des chrétiens. Et alors, à un moment donné, il y a des gens, des frères, qui ont pensé comment on peut faire pour éviter que les hérésies troublent tellement la foi des chrétiens ? Bon, on va s'organiser. Alors, il y a eu des essais d'organisation à partir de différents lieux, de différentes églises, et on s'est rendu compte petit à petit que, voilà, l'église de Rome a pris de l'importance et l'église s'est organisée. Vous verrez sur le dépliant. Vous pouvez voir qu'à un moment donné, un homme a dit ben, « Moi, je suis le pape et je suis infaillible. » Pas d'erreur du côté du pape. Donc, ce que le pape décide, voilà, il faut l'adopter comme étant un dogme. C'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas bouger. Sauf si un pape, si jamais un pape le décidait. Et tant que c'était des bonnes choses correspondant aux Écritures, l'Église allait bien. À partir du moment où on a adopté des dogmes qui étaient anti-Bible, contre la Bible, en dehors de la Bible, et bien à ce moment-là, l'Église a commencé à aller mal. Alors bien sûr, on retrouve les mêmes choses qu'au temps de Judas, l'idolâtrie, l'injustice, la corruption, les mœurs dépravées. On a plein d'histoires sur la papauté, et on a plein d'histoires sur les prêtres, sur cette église qui paraissait riche, qui avait des bons aspects, qui avait développé des belles choses d'un côté, mais qui s'était laissée corrompre par des fausses doctrines et par des esprits mensongers. Alors, la situation devenait de plus en plus trouble. Ce qui fait que des hommes se sont levés. Je pense à quelques-uns, je vais citer principalement trois hommes, pardon. Valdo, qui agissait sur le sud de la France, Pierre Valdo. Vous avez entendu parler peut-être des Vaudois. Ce Pierre Valdo a dit, il faut qu'on arrête le matérialisme. Le matérialisme est un grand danger pour l'Église. Or, l'Église catholique romaine vit sur et avec le matérialisme. Donc, il a commencé à élever la voix et des communautés se sont formées en dehors de l'Église catholique romaine. Bien sûr, il y a eu des persécutions terribles, mais ils ont essayé. Ils ont dit des vérités. Pareil pour Wycliffe, en Angleterre, au XIVe siècle. Et puis, encore un peu après, Jean Hus, dans les régions de l'Est, dans ce qu'on appelle la République tchèque aujourd'hui, à peu près dans ces régions-là, à l'époque. Et voilà que des gens élèvent la voix et disent « Non, on ne peut pas continuer comme ça. Non, le pape n'est pas la référence. La référence, c'est l'Écriture. » Et ils sont poursuivis. Certains meurent à cause de cela, sont torturés, etc. Et l'Église ne sait plus où elle en est, quelle est sa mission et quel est son fondement. On dit toujours, mais c'est le pape. On dit toujours, mais c'est au Vatican. Les cardinaux vont décider. Ils savent ce qui est bon. Le prêtre sait ce qui est bon pour le paroissien. Vous savez qu'à un moment donné, le paroissien n'avait pas le droit de lire l'Écriture, de lire la Bible, parce que c'était dangereux pour l'Église. Ah, cette Église ressemblait donc à la chenille. Et dans cette Église, on y associe tout le monde. On y associe, bien sûr, tous ceux qui essayaient de produire du changement, qui priaient Dieu pour que quelque chose se passe. Mais l'Église ne semble pas comprendre le besoin d'une réforme. Pourtant, par exemple, Jean Hus n'arrêtait pas d'en parler. Il criait dans les rues. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour dire « Mais il faut réformer nos voies, comme Jérémie !» Mais on l'a mis sur un bûcher, on l'a brûlé, on lui a arraché, si mon souvenir est bon, on lui a arraché la langue pour qu'il arrête de chanter, etc. L'Église n'a pas compris, semble-t-il, le besoin de réforme. Et au fil du temps, on a des choses qui s'installent dans l'Église, vraiment. Toute l'Église va fonctionner à partir de la suprématie de l'infaillibilité du pape. Donc ça, c'est un point très important. Le culte des reliques et des saints est arrivé à partir du 8e siècle, donc très tôt. Mais c'est renforcé, évidemment, au 12e, 13e, 14e siècle. Le culte rendu à la Vierge Marie. On plaçait alors la Vierge Marie au-dessus de Jésus, mère de Dieu. Et puis on a dit que le prêtre seul, comme je l'ai déjà mentionné, pouvait interpréter la Bible. Et puis il y avait d'autres pratiques. Alors des pratiques un peu particulières. Par exemple, la pratique des indulgences. Vous pouviez acheter votre salut moyennant soit des biens matériels, soit de l'argent. Ainsi, le prêtre pouvait faire des messes pour votre salut. Il y a bien des gens qui le faisaient très sincèrement. On les avait enseignés comme cela et ils pensaient que c'était cela. Mais ils ignoraient la parole, ils ne connaissaient pas la parole. On arrangeait les mariages. On organisait des meurtres pour des raisons d'État, puisque l'Église du Vatican, ayant adopté le principe du pouvoir temporel, c'est-à-dire Dieu peut instaurer un gouvernement politique sur la terre, et l'Église catholique pensait que bien c'était l'Église catholique romaine qui pouvait le faire. Et alors, bien des gens sont morts à cause de cela. La magie. On acceptait beaucoup de pratiques occultes dans l'Église à cette époque. Les unions illicites entre les religieux et les religieuses. On en parlait au temps de Luther. Et puis, petit à petit, on s'est tu. On en a reparlé au XXe siècle. Ces derniers temps, on n'en parle plus. Il y avait la pornographie. Alors, quand on dit que la pornographie est un mal d'aujourd'hui, oui, c'est un mal d'aujourd'hui parce qu'il est répandu dans le monde entier par des moyens comme Internet. Mais la pornographie, elle était dans les églises. Allez dans certaines églises, regardez le plafond et vous découvrez les scènes. Excusez-moi, quand vous avez des femmes, des enfants, des hommes nus, tous ensemble, sur une même scène, enfin, c'est quoi sinon de la pornographie? Si on prend le terme, l'étymologie du mot, ça veut dire c'est ça. Alors, voyez que les hommes qui étaient tourmentés dans leur âme et qui disaient, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que Dieu, tu n'as pas prévu autre chose? Parce que mon cœur souffre. Et Luther était tourmenté par ses propres péchés, mais qui était en quelque sorte comme aidé par l'ambiance qu'il y avait autour, par les doctrines qui étaient émises par l'Église. Et la question que je me pose, c'est quel est notre état spirituel aujourd'hui en tant que chrétien, en tant qu'Église? Est-ce que nous ne sommes pas un peu parfois dans la même situation? Est-ce que nos églises ne sont pas parfois dans la même situation? Beaucoup, beaucoup se posent la question, où en est l'Église d'aujourd'hui? Quelle est son identité? On se dispute souvent pour des questions de doctrine ou de pratique, que j'appelle des questions secondaires. On va se disputer pour savoir si... au moment de la Sainte Cène, il faut plutôt faire ceci ou cela. Ou on va se disputer à savoir si tel don spirituel peut être pratiqué ou pas pratiqué dans l'Église. On se dispute sur beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut avoir des jupes qui sont au-dessus du genou ou en dessous du genou? Ou si des pantalons, c'est mieux. On se dispute sur énormément de choses. Et on ne s'en rend pas compte. Ça voyage dans toutes les églises. Et puis, ne pensons par exemple à un problème comme la pornographie. Aux États-Unis, on dit qu'il y a 70% des pasteurs qui ont au moins regardé une fois la pornographie. Mais moi, je ne condamne pas ces pasteurs. Hein. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Parce que n'importe quel péché est grave devant Dieu. Que ce soit un pasteur ou pas un pasteur, d'ailleurs. Mais ça montre, tout simplement, ça révèle la détresse, le désarroi qu'on peut aussi être en train de vivre. Alors, c'est une question. Je n'ai pas de réponse immédiate. On y viendra. Les fondements de la réforme. Alors, je vais lire 1 Corinthiens. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, donc dans la première lettre, 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3. Au verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Martin Luther, en 1517, placarde ses 95 thèses sur la porte de l'église à Wittenberg, en Allemagne. Dans ces 95 thèses, il dénonce l'iniquité de l'église et propose une réforme de l'église. Il aime l'église, il est dans l'église. Il va dénoncer ce qui lui paraît contraire aux Écritures et contraire à la révélation que Dieu lui a faite, que c'est par la foi qu'on est justifié, que c'est par la foi qu'on est sauvé. Bien sûr, comme l'a dit notre frère, il va être poursuivi, mais il va être protégé. Quand il regarde l'épître de Paul aux Romains et qu'il découvre ce salut par la foi, c'est ce papillon qui sort de la chrysalide. Pour Luther, c'est comme si quelque chose de totalement nouveau apparaît. Il avait connu beaucoup de belles choses. Il y vivait, c'était un homme qui vivait les choses intensément. Il n'a pas dit que tout était mauvais, mais il a vu qu'il cherchait le salut par la confession des péchés, il cherchait le salut par la bénédiction de son confesseur ou de tel évêque, voire même si possible du pape, quand le jour il est allé au Vatican, il aurait pu revenir avec la bénédiction du pape. Mais Luther a découvert que le salut, c'est par la foi. Alors, cette foi, elle vient d'où? Eh bien, elle vient du Christ, des enseignements du Christ. C'est de ce que Christ a fait sur la croix. On se l'est rappelé par la Sainte Cène. Je vais vous donner ces 5 fondements. Vous les retrouvez dans le document, en page centrale. Il y en a 5. Solus Christus, qui veut dire Christ seul. Rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. La pierre d'angle sur laquelle l'Église est bâtie. Ni la foi, ni le salut, ni la vie du croyant, ni rien d'autre ne peut être édifié sur un autre fondement que celui de Jésus. Vous le croyez? Bon, ça me rassure. Jésus, fils de Dieu, Dieu lui-même. Le deuxième fondement, c'est Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Paul déclare, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Romains 11, 36. Vous êtes d'accord? À Dieu seul soit la gloire. Est-ce qu'on rend la gloire à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on va rendre la gloire à nous-mêmes? Parce qu'on peut dire, ouais, quand même, j'étais bon, hein. J'ai pris la bonne décision. Mais Paul dit, cela ne vient pas de vous. Un frère a aussi prié tout à l'heure en disant, mais je n'ai pas cherché Dieu, c'est Dieu qui est venu me chercher. Vous écoutez les prières des frères et sœurs quand ils prient dans l'église? Il y a plein d'enseignements. Quand quelqu'un prie, il prie parce que il a reçu l'enseignement de la parole et sa prière est inspirée de la parole. Alors, on y trouve les éléments de la parole qui nous nourrissent aussi. La prière communautaire est importante pour cela. Sola scriptura, l'écriture seule, la parole de Dieu ou la Bible est inspirée, sans erreur. Elle contient tout ce qui est nécessaire pour comprendre et vivre la volonté de Dieu. Elle est l'autorité souveraine pour tout croyant. Pour toutes les questions, il faut poser cette question. Que dit l'Écriture ? Et se conformer à ses réponses. Je ne prends pas d'exemple parce que là, on passerait trop de temps. Mais vous pouvez vous-même chercher des exemples de questionnement que vous avez même en famille. Est-ce que ça, on peut faire ? Est-ce qu'on ne peut pas faire ? Est-ce que ça vient du Seigneur ? Est-ce que le Seigneur me le demande ou pas ? Que dit l'Écriture ? Pas que dit tel livre de tel orateur, de tel auteur, parce qu'il y a des pasteurs, des prédicateurs, des gens qui prêchent, comme là je le fais ce matin. Je vous dis, hein, on peut dire ce qu'on veut devant, mais qu'est-ce que Dieu dit à ton cœur à partir de la seule parole de Dieu ? La souveraineté des Écritures, on ne peut pas les remettre en cause. Maintenant, il y a un autre fondement, sola fide. Nous sommes sauvés par la foi seule, rien d'autre. Mais la foi est aussi active dans la vie quotidienne du croyant. Donc il y a la foi, c'est-à-dire qui va produire la nouvelle naissance, et cette foi-là va grandir en nous et produire une vie chrétienne. Jour après jour, nuit après nuit. Lisez chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Sommes-nous différents de Sarah ? Sommes-nous différents de Rahab ? Sommes-nous différents de Noé ? Sommes-nous différents d'Abraham ? Nous sommes tous de la même nature. Et c'est par la foi. Sola gratia. La grâce seule est source de salut, eau vive pour alimenter la foi et témoigner. Sans cette grâce, notre théologie est morte. Nos pratiques sont vaines. Frère François, tout à l'heure, il a lu Tite 2, 11, 14. Voyez, grâce à ces fondements sur lesquels les réformateurs se sont mis d'accord, eh bien, le papillon a pu s'envoler. L'Église renaissait de ses cendres, en quelque sorte. Elle sortait de la chrysalide. Mais malheureusement, l'Église officielle a refusé cela. Mais que Dieu soit loué pour toutes les fleurs que les papillons ont butinées. Les fleurs, ce sont ses fondements. Et ces hommes et femmes de la Réforme, ils ont butiné ces fondements. Ils s'en sont nourris, ils en ont nourri les églises de partout en Europe. Et ça a répandu le feu. Une autre date à retenir, c'est 1529. Jusqu'à cette date, tous ceux qui suivent les thèses des réformateurs, qui s'appuient sur les fondements de la Réforme, sont appelés des réformés ou prétendus réformés. En France, on les appelait comme ça. Mais à la diète de Spire, excusez-moi l'accent, pas tout à fait allemand, la diète, c'est une assemblée politique, c'était au niveau de l'État que ça se passait, en présence du pape et de l'empereur, eh bien, tous les princes allemands se sont réunis et une grosse partie est sortie de l'ensemble et ont écrit un texte. Et ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas d'accord avec le pape ni avec l'empereur. Et alors ils ont commencé leur déclaration par « Nous protestons ». D'où le mot de protestant. Voilà. Alors, bien sûr, nous avons mentionné Luther, mais j'aimerais mentionner un certain nombre de noms. Que ça sonne dans vos oreilles, que vous puissiez ensuite faire des recherches, personnellement. Jean Calvin, qui a exercé son ministère en France et à Genève. Donc vous êtes proche ici. Philippe Mélenchon, à ne pas confondre avec un homme célèbre. Et à l'époque, il n'y avait pas d'hologramme. Alors, Philippe Mélenchon, qui accompagnait les autres réformateurs, qui était un homme remarquable en Allemagne. Zwingli en Suisse. Farel, Guillaume Farel en Suisse et en France. Mathurin Cordier en France. Lefèvre d'Étaples en France. Robert Étienne. John Knox au Royaume-Uni. Théodore de Bèze. Martin Bucer à Strasbourg. Eucolampade. Alors celui-là, il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, mais on retient en général le nom, il est un peu compliqué, Colampad, à Bâle. Thomas Cranmer, Comenius, en Hollande, voilà, et ainsi de suite. Tous ces gens, avec leurs épouses, avec leurs enfants, avec leurs familles, ont révolutionné l'Europe. Bien sûr, tous ont reconnu que Luther était le père de la réforme. Les historiens n'en discutent pas aujourd'hui, mais tous ont contribué à ce que cette réforme puisse aboutir sur des réveils. Alors notre papillon vole, c'est merveilleux. On en arrive à la dernière partie. Le temps est quasiment pas loin d'être écoulé. Donc, je dirais, après 500 ans, est-ce que les fondements des réformateurs sont toujours nos fondements ? Alors, seul Christ, on peut répéter, hein, seul Christ, après, à Dieu seul soit la gloire, ensuite, seul l'Écriture, seul la foi et seul la grâce. Frères et sœurs, si nos églises, dans notre époque, se fondent de tout cœur, d'un commun accord, sur ses fondements, alors beaucoup de choses peuvent encore se passer dans ce monde. Et la réforme a produit des fruits extraordinaires. Alors, principalement dans les pays comme l'Allemagne, la France, la Suisse, l'Angleterre, etc. Bien sûr, on a vu des fruits fantastiques, des foules entières qui étaient délivrés du fardeau des obligations, qui rencontraient Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur, qui obéissaient au fait de répandre la bonne nouvelle, qui prenaient les Écritures, qui étudiaient les Écritures en famille. On voyait des familles révolutionnées, des écoles nouvelles voyaient le jour, des centres d'apprentissage, et des tas de choses se faisaient sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et fondée sur les Écritures. Alors j'ai relevé les domaines qui ont été particulièrement touchés par la réforme. Vous connaissez le psaume 37, versets 7 à 9. On va le lire. Psaume 37. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Frères et sœurs, nous sommes appelés à posséder le pays. C'est notre héritage. Et notre héritage, il est dans les domaines que nous avons grâce à la réforme, reconquis. Et que régulièrement dans l'histoire du monde, nous devons reconquérir. Par exemple, nous avons la musique. Vous connaissez tous Jean-Sébastien Bach. Référence numéro un de tous les musiciens du monde entier. Vous pouvez demander à des gens qui jouent du hard rock, qui jouent de la musique classique, quand vous leur demandez quel est pour vous le compositeur numéro un, dit Jean-Sébastien Bach. Personne n'en doute. Vous avez la peinture avec des hommes comme Albrecht Dürer. Vous avez l'écriture, Luther lui-même qui quand même a été l'initiateur de la langue allemande. Vous savez qu'aujourd'hui les Allemands fêtent ces 500 ans de réforme parce que c'est leur langue. Et alors, si vous achetez c'est des Playmobil, hein, Playmobil qui est une marque allemande, eh bien, vous trouvez dans les petits jouets Playmobil un petit bonhomme avec une Bible. Mais ça, c'est qu'en Allemagne, vous pouvez l'acheter. En France, ça n'existe pas. Bien sûr, vous avez des gens comme Clément Marot et John Bunyan, qui, par exemple, John Bunyan qui fixe les règles de l'allégorie. Vous avez Agrippa d'Aubigné, historien, poète, etc. Dans l'architecture, les protestants inventent une nouvelle forme de lieu de culte. Ils enlèvent les colonnes qu'il y avait partout au milieu et ils ne séparent plus les hommes et les femmes et les enfants et tout le monde est réuni dans le temple à l'écoute de la parole de Dieu. C'était vital pour eux. Les sciences avec Denis Papin. Qu'est-ce qu'il a inventé, Denis Papin ? Machine à vapeur. Mais aussi le sous-marin. Ça, on le connaît moins. Et puis vous avez Olivier de Serres, qui n'était pas loin d'ici, qui était un homme qui a réformé l'agronomie grâce à sa foi, au Berlin, qui a révolutionné beaucoup de techniques agricoles, mais aussi les réseaux routiers. La première école maternelle de France, c'était au Berlin. L'économie avec Isaac Mallet, qui était l'inventeur du microcrédit, et qui a aidé beaucoup de gens dans la pauvreté, parce qu'il avait la foi. Il était basé sur les principes de la Bible pour ses finances. Palissy, Henri IV, Sully, qui était le ministre des Finances d'Henri IV. Et des gens comme ça qui ont travaillé et qui ont été une bénédiction pour leur entourage. En justice politique, vous avez Rutherford, vous avez John Howard, Matilda Vred, des gens qui ont travaillé dans les prisons, qui ont révolutionné la vie des prisons et des prisonniers, bien sûr. Vous avez, par rapport à l'esclavage, John Wesley, Whitfield, Shaftesbury, vous avez John Newton, Wilberforce, d'autres. Auguste Franck, qui a révolutionné, lui, le principe d'enseignement, la pédagogie, comment transmettre l'enseignement. Mélenchon, qui a décidé que dans toute sa région, eh bien, l'école était obligatoire pour tout le monde. Etc., etc. Et puis, nous avançons dans le temps et nous avons, sur les mêmes principes de la réforme, les missions protestantes et les missions évangéliques qui progressent dans le monde entier en voyant des missionnaires, où on connaît les frères Moraves qui ont envoyé des milliers et des milliers de missionnaires. Vous connaissez les missions avec Hudson Taylor en Chine, qui a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Il y a des réveils en Chine qui sont repartis depuis des bases où Hudson Taylor avait travaillé. François Coyard en Afrique australe, Livingston, tous ces gens-là. Alors, le témoignage évangélique touche toute la société. De la famille, le couple, la famille, jusque dans les domaines de la politique. En passant par l'entreprise, les loisirs. Tout nous appartient, frères et sœurs. C'est notre héritage. Et nous devons conquérir et reconquérir ces terrains en étant présents, en recevant de la main de Dieu notre vocation, notre destinée, et de transmettre l'Esprit Saint partout où nous sommes. Voilà les magnifiques papillons qu'ont été ces hommes et ces femmes. Je n'ai pas le temps, n'ai pas eu le temps de vous en parler davantage en détail. Il y a tellement de témoignages magnifiques, merveilleux, on pourrait y passer des semaines. C'est tout simplement impossible. Mais je fais appel à votre responsabilité. Maintenant, c'est à vous d'aller chercher. C'est pas compliqué. Vous pouvez aller chercher, il y a des livres à la sortie sur le thème de la réforme, mais vous pouvez aussi trouver sur Internet, sur museeprotestant.org par exemple, où vous avez un certain nombre de renseignements. Mais après, vous allez chercher, faites-le, et puis parlez-en avec votre pasteur, etc. Et vous allez davantage savoir ce que Dieu a fait dans ce monde pendant toute cette période. Voilà. Alors j'ai trois versets qui me viennent à l'esprit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est ce qu'a fait Luther. Ensuite, redécouvrons que le juste de Dieu vivra par la foi. Que l'évangile est éternel, il est pour toute tribu, tout peuple. Et je conclurai, et je vous propose de le faire, si vous êtes d'accord, qu'on puisse dire ensemble, comme Luther a dit à la diète de Worms, face à ses accusateurs, et nous pouvons dire face aux puissances spirituelles et face au monde qui nous entoure, que Dieu nous vienne en aide. Vous voulez répéter ? Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Dieu vous bénisse, bénisse particulièrement les assemblées sur Annecy, et que le Seigneur puisse vous accorder encore des temps de rafraîchissement dans cette ville, que nous aimons bien parce que nous y avons passé 5 ans déjà.